toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois, et c'est donc la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Corentin et Laurent, Jean-Max à la programmation musicale et Claude aux manettes. L'émission de ce soir est consacrée, et l'actualité nous a rattrapés, à la politique migratoire française et à l'accueil des migrants et réfugiés en France.
Les drames humains se succèdent depuis de nombreuses années sur les longues routes de la migration en Méditerranée, dans le désert libyen, le long des routes d'Europe où les hommes, femmes et enfants essayent d'échapper aux maltraitances et les violences des milices, des polices ou des passeurs. Cela fait des années que les gouvernements européens et français successifs sont en échec à régler les problèmes que leur pose l'arrivée de ces migrants et réfugiés qui veuillent s'installer en France ou alors qui ne font que passer pour se rendre au Royaume-Uni, par exemple. Les textes de loi semblent s'accumuler et ne rien solutionner. Donc ce mercredi, le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif a été présenté par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en Conseil des ministres. Il vise à réduire le délai de la procédure d'asile et à expulser plus systématiquement ceux auxquels il a été refusé. Donc notre émission va chercher à comprendre, à connaître l'ampleur des phénomènes migratoires aujourd'hui en 2018, à comprendre les objectifs des politiques migratoires européennes et françaises, mais également de mettre des mots sur la réalité quotidienne de ceux qui ont tout quitté pour venir s'installer en Europe et en France. Donc pour discuter de ces questions, la Fondation Copernic reçoit ce soir trois invités. Donc Madame Laurence Fabard, qui est militante à la CIMAD, à RESF et à ATTAC, donc qui nous dira tout à l'heure quelles sont ces organisations. Monsieur Nicolas Fischer, qui est docteur en sciences politiques de l'IEP de Paris, qui est chargé de recherche au CNRS, au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, et qui est auteur de « Les politiques migratoires » avec Camille Amidi aux éditions La Découverte. Et nous recevons également Monsieur Patrick Henriot, qui est membre du GISTI, et qui est ex-secrétaire général du syndicat de la magistrature. Donc dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les précédentes, sur le site de la Fondation Copernic et sur le site mode-emploi.net, mais également en rediffusion sur Radio Fréquence Paris Pluriel, mercredi prochain à 7h du matin.
Je propose de commencer cette émission par la définition un peu du sujet et discuter de cette crise migratoire, si elle existe, et de cadrer les politiques migratoires. Donc je propose de donner directement la parole là-dessus sur l'évolution, un petit historique sur la migration, surtout en Europe et en particulier en France.
Alors bonsoir. Alors je vais peut-être effectivement commencer par la France, par l'histoire du contrôle de l'immigration. Alors bon, je vais pas remonter trop loin, mais ce qui est intéressant si on se penche sur ce qui s'est passé, disons, depuis le milieu des années 70, c'est que on a un retour au contrôle après une période où il n'y avait pas une absence de contrôle, mais des contrôles quand même assez relâchés. Donc retour à un contrôle de plus en plus durci de l'immigration. Donc il y a vraiment un durcissement de plus en plus fort. Et puis ce qu'il y a aussi, et ça je pense que c'est intéressant pour le thème de ce soir, c'est aussi une construction de l'immigration comme un problème. Un problème public en sciences politiques, en sociologie, n'existe jamais naturellement, il y a toujours une construction, il va être imposé à un moment donné sur l'agenda médiatique, politique, etc. Et c'est aussi ce qui se passe à partir du milieu des années 70. C'est-à-dire qu'on a une situation, donc, entre 45 et les années 70, où la France fait venir énormément de travailleurs étrangers. Pour l'essentiel, c'est une migration de travail, mais qui est vraiment organisée par des employeurs privés, mais par les administrations qui travaillent avec ces employeurs. Donc on introduit avec des contrats de travail des travailleurs en France. Et puis, alors on dit toujours c'est la crise en fait qui provoque l'arrêt de l'immigration de travail en 74. En fait, ça se passe avant, ça commence en 1972. Donc avant aussi la crise économique, avant le choc pétrolier de 73, etc. Mmh. Voilà, exactement. Et donc, ce qui veut dire aussi que ça n'est pas purement une question économique, c'est aussi une question politique.
Et alors en 72, quelle justification ?
Alors en 72, alors c'est des circulaires qu'on appelle circulaires Marcelin Fontanet qui les premières commencent à prescrire aux préfets de ne plus renouveler certains titres de séjour ou de ne plus accorder des titres de séjour à des étrangers qui les demandent. Et l'enjeu, c'est largement un enjeu politique ou une inquiétude, on pourrait même dire sociétale, c'est-à-dire qu'on n'est pas longtemps après mai 68, et il y a une certaine inquiétude vis-à-vis de cette présence d'une population étrangère qu'on a fait rentrer en France sans trop se préoccuper de ses conditions d'accueil, de ses conditions de vie, ce qui veut dire du coup beaucoup de précarité du côté de ces des conditions de vie de ces populations étrangères. Et l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il y a une organisation politique, si ça débouche sur des révoltes organisées, etc., etc. On est encore une fois très très peu de temps après 68, et donc il y a une véritable inquiétude politique par rapport à cette situation-là. Et c'est pas sans lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec le fait que à partir des années 70, et puis encore plus dans les décennies qui suivent, on construit progressivement la question même de la présence des étrangers comme une question, comme un problème. Un problème qui doit appeler des solutions, un traitement politique. Donc il faut produire des politiques publiques et il faut notamment reprendre les expulsions du territoire, ne pas régulariser tous ceux qui en font la demande, revenir à un contrôle des frontières. Et finalement, alors, au niveau européen, ça va s'accentuer, mais à une autre échelle. Mais c'est au fond l'évolution générale qu'on peut noter.
D'accord. Et plus récemment, du coup, ces 10 dernières années, on va dire, est-ce qu'on a l'impression vraiment que le discours s'est durci ? Donc, est-ce que ça s'est traduit aussi en termes politiques et juridiques ?
Alors oui, le durcissement, on pourrait le retracer jusqu'à à des dates plus anciennes, hein, à partir des années 70-80, c'est vraiment un durcissement progressif. Ce qui est assez frappant depuis les années 2000, c'est qu'effectivement, il y a une systématisation de tout ce qui est éloignement, enfermement des étrangers. C'est-à-dire que là, ça se fait à beaucoup plus grande échelle qu'auparavant. Voilà, le nombre de centres de rétention en France, la capacité, la multiplication des lieux d'enfermement au niveau européen. Il y a aussi une thématique qui est assez nouvelle, qui a été, alors sous Sarkozy, celle de l'immigration choisie. C'est-à-dire l'idée qu'on sélectionne aussi les étrangers et que éventuellement il peut y avoir aussi une ethnicisation des choix, qu'on va passer à des politiques de quotas, etc., etc. Ça, c'est une autre tendance qu'on a pu détecter. Et puis au niveau européen, mais ça je pense qu'on en reparlera, il y a toute une logique aujourd'hui dont tout le monde je pense pourra parler ici, qui est celle de l'externalisation. C'est-à-dire qu'au niveau européen maintenant l'enjeu, c'est plus, en tout cas plus seulement, de renvoyer les gens, d'expulser les gens qui sont déjà entrés sur le territoire d'un État membre de l'espace Schengen, mais c'est autant que possible de faire en sorte que les pays qui sont à l'extérieur de l'espace Schengen, qui sont directement limitrophes, le Maroc, la Libye, etc., bloquent sur leur territoire les migrants, si on veut les appeler comme ça, avant qu'ils ne pénètrent en Europe. Et c'est typiquement ce qui s'est passé, notamment avec les réfugiés en provenance de Syrie et les tractations entre l'Union européenne et la Turquie. Ça, c'est vraiment la grande tendance au niveau européen aujourd'hui.
Alors, est-ce que techniquement, il y a une augmentation ces dernières années de la migration sur notre territoire? C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui a des impacts sur la France, où on en est et dans quelle direction on a pris ces dernières années?
Quels sont les ordres de grandeur?
Alors, avant de parler de la France, je pense que c'est quand même intéressant de se resituer aussi au niveau international. Parce qu'en fait, les migrations, elles ont toujours existé. C'est une autre façon d'aborder la question. Les migrations ont toujours existé. Il y a toujours, depuis plusieurs années, à peu près 3% de la population mondiale, je crois que c'est évalué à 244 millions de gens, qui sont considérés comme des migrants internationaux, c'est-à-dire des migrants qui franchissent une frontière, à distinguer des ce qu'on appelle les déplacés internes, qui sont à peu près 65 millions, je crois que c'est les chiffres de 2016, qui sont des personnes qui sont déplacées à l'intérieur d'un même pays. Donc l'immigration, ce chiffre de 3% est à peu près stable. Et on sait aussi, je crois que ça c'est important par rapport aux personnes qui peuvent entendre, c'est que depuis en gros 2010-2013, je ne sais pas exactement, les migrations sud-sud sont plus importantes que les migrations sud-nord. Alors ça c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on entend souvent les personnes qui disent oui, tous les migrants viennent en Europe, viennent dans les pays riches. C'est de moins en moins vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est de moins en moins vrai. Donc ça, c'est un autre aspect, je pense, qui est intéressant à prendre en compte. Alors maintenant, sur la France, sur l'Europe, évidemment, en 2015, il y a eu un pic, puisqu'on sait qu'il y a eu 1 million de demandeurs d'asile qui sont arrivés en Europe. Ceci étant, quand on regarde d'ailleurs les chiffres plus récents qui ont été publiés par l'OFPRA et puis qu'on a dans les statistiques officielles de l'Europe, Eurostat.
Alors l'OFPRA, juste...
L'OFPRA, pardon, c'est l'Office pour les réfugiés et les...
Office français de protection, des réfugiés. Des apatrides.
Des apatrides, je ne sais jamais le cycle. Oui, si on regarde les chiffres de l'OFPRA, de cet office, on voit déjà que les chiffres, les demandeurs d'asile, par exemple en France, en Europe, ont diminué. Et en France, il y a eu effectivement en 2017 100 000 demandeurs d'asile. Qui sont arrivés. Et il faut savoir que sur ces 100 000, il y en a que 30%, 31% qui ont obtenu le statut. Donc ça veut dire 70 000, pour 100 personnes, il y en a 30 qui obtiennent le statut et 70 qu'on va rejeter à la mer, si je puis dire, qu'on appelle les déboutés du droit d'asile.
Et du coup, ma question va être double. Est-ce qu'il y a une crise migratoire, d'une part, et pourquoi ? Et ma question est lié. Pourquoi faut-il renvoyer les migrants réfugiés étrangers? Pourquoi faut-il, s'il le faut bien sûr, faire ce choix de renvoyer ces gens chez eux?
Oui, ce qui vient d'être dit montre bien que même s'il y a une augmentation en valeur absolue des chiffres des personnes migrantes qui se sont dirigées vers le territoire de l'Union européenne et plus spécifiquement vers la France, il faut évidemment relativiser immédiatement ces chiffres, ces données brutes, en les comparant évidemment à la population de l'Union européenne et aux capacités d'accueil qu'a cette Union européenne au regard du volume de personnes, hein, pour parler un peu crûment, qui arrivent sur le territoire. Et quand on fait la comparaison avec les phénomènes migratoires sud-sud ou certains phénomènes migratoires qui affecte certaines régions particulières du monde où il y a des réfugiés en masse qui vont d'un pays à l'autre, on voit que l'effort, si tant est que ça soit un effort, qui serait demandé à l'Europe est encore infime par rapport à ce que certains pays supportent. On pense au Liban par exemple, mais pas que le Liban, ou le Pakistan, et qui accueille un nombre de réfugiés absolument considérable. La Turquie aussi d'ailleurs, faut le dire, accueille un nombre de réfugiés qui, au regard de l'effectif de la population du pays, est considérable par rapport à ce qu'on devrait ou pourrait faire, nous, en termes de proportion entre la population française et les migrants qui arrivent. Donc, il n'y a pas de crise en réalité. Il y a une capacité tout à fait évidente à, encore une fois, je vais parler crûment, absorber ces flux migratoires, pour reprendre les termes des politiques. Ils sont d'une froideur épouvantable, mais adoptons ces termes. Ces flux migratoires, on peut parfaitement les absorber et ça n'est en rien un problème ni économique. Alors, c'est peut-être un problème politique. Et je reviens à ce que disait Nicolas Fischer tout à l'heure, comment on construit une problématique des migrations.
Alors, certains parlent d'un surarmement pénal. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que chaque gouvernement va faire sa loi sur le phénomène migratoire. Dans quel objectif finalement vont ces lois, quoi.
Avant de parler de surarmement pénal, parlons de surarmement tout court. Parce que quand on voit un office comme Frontex qui protège entre guillemets les frontières de l'Europe, dont le budget est absolument faramineux aujourd'hui, je ne sais plus exactement le montant, mais chaque année son budget augmente. Quand on voit tous les centres de rétention, alors on est dans le pénal, mais en même temps on est dans du sécuritaire militarisation maximale. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Donc la loi vient se surajouter à tout ça, mais il y a un vrai business de tout ce qui est industrie militaro-sécuritaire, et pas simplement en Europe, mais effectivement aussi dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Enfin, on voit ce qui se passe en Libye, en Mauritanie, en Niger. Là, vraiment, aujourd'hui, on assiste à des budgets faramineux. Et ça devient quelque chose de très juteux. Parce qu'il y a des industries, finalement, les problèmes d'émigration, ça devient un business pour beaucoup, pour beaucoup d'entreprises.
Il y avait une autre réaction ?
Oui, pour aller tout à fait dans le même sens, ce qu'on peut même ajouter, c'est que ce business, l'Union européenne l'entretient, puisque une partie des technologies de contrôle, etc., vont être proposées, vont être livrées par l'Union européenne aux États limitrophes, et ça fait partie de ces jeux diplomatiques où on va demander aux Turcs, aux Libyens et avant eux aux Marocains à la fin des années 90 de bloquer les migrants à l'intérieur de leur territoire, et puis en contrepartie il y aura éventuellement une aide financière et il y aura aussi un prêt de technologie, on va prêter, vendre, proposer une aide en termes de vedettes, de radars, de détecteurs infrarouges, etc., etc. Donc effectivement il y a un business, mais il y a un business à la fois national et international autour de ces technologies de sécurité.
Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de crise, peut-être le bilan de cette première partie ce serait qu'il n'y a pas de crise migratoire mais une crise
de l'accueil. On peut dire que c'est vraiment une crise de l'accueil. Je crois que c'est ça que ça a montré pour la France, très nettement, mais aussi pour bien d'autres pays de l'Union européenne.
D'accord. Ben merci. On va faire une première pause musicale et puis on reviendra ensuite sur le projet de loi de Gérard Collomb.
Devant les clowns du bled, devant la famille. Pas de hip-hop machin, pas de pantalon aux chevilles. C'est si on dit ou là le même, j'ai mal le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises, seul face à mon ego. Seul face à mon ego. Ah. Pas perdu du poids comme s'il avait le sida. Ici on parle, on est cul, je te souhaite la bienvenue.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission mode d'emploi. Nous venons d'écouter la rumeur blessé dans mon ego. Donc on voulait reprendre cette deuxième partie de l'émission sur le projet de loi asile et immigration qui fait l'actualité cette semaine. Donc on voulait poser la question, qu'est-ce que va changer cette loi asile et immigration ?
Alors peut-être une présentation générale, si on essaye de décrypter les objectifs du projet de loi, on va partir de ce qui nous est annoncé et on va voir ce à quoi on va aboutir en réalité. Alors, ce qui est annoncé par le gouvernement, c'est un objectif qui peut paraître vertueux, a priori, c'est-à-dire accélération des procédures d'asile. Hein, on nous dit, ces pauvres gens qui attendent beaucoup trop longtemps avant de connaître leur sort, on va faire en sorte qu'ils soient mieux traités et notamment, on va faire en sorte qu'ils soient informés plus rapidement de leur sort et donc de la décision qui sera prise. Et puis on dit aussi parallèlement...
Parce qu'aujourd'hui, c'est combien les délais à peu près ?
Alors, les délais sont très longs, beaucoup trop nombreux mois. Mais en réalité, le vrai problème n'est pas tant la durée de la procédure d'instruction de la demande d'asile, parce que là-dessus, il y a déjà des progrès qui ont été faits. Mais le vrai problème, et ce problème-là n'est pas traité par le projet de loi précisément, c'est ce qui se passe en amont. En réalité, la vraie difficulté pour les migrants, c'est de pouvoir faire enregistrer leur demande d'asile. Actuellement, il y a dans la loi, fixée par la loi de 2015, faut pas oublier qu'il y a une loi tous les deux ou trois ans, donc il y a déjà eu une loi en 2015 sur l'asile, on a fixé un délai de 3 à 10 jours aux préfectures pour enregistrer les demandes d'asile. À partir du moment où la personne se présente à la préfecture doit pouvoir, dans les 3 à 10 jours, lui remettre un dossier complet qu'elle pourra enregistrer et ensuite instruire. Eh bien, actuellement, le délai moyen est de 4 mois. Ça veut dire que pendant 4 mois, une personne qui est arrivée dans des conditions souvent épouvantables, qui est souvent à la rue, qui enfin peut arriver au guichet d'une préfecture, ne pourra en réalité déposer et faire enregistrer sa demande d'asile que 4 mois après. C'est-à-dire que pendant 4 mois, elle va rester à la rue, sans aide matérielle, alors que quand même la Convention de Genève prévoit qu'un demandeur d'asile doit être pris en charge matériellement, et surtout avec le risque d'être éloigné du territoire avant même d'avoir pu déposer sa demande d'asile, puisqu'il va être évidemment susceptibles d'être interpellés dans la rue à tout moment. Voilà. Donc on précarise déjà toute une population avant même qu'elle puisse accéder à la procédure. Et on nous dit, oui, mais après, une fois que la procédure sera engagée, on va aller plus vite. Et alors là, c'est le deuxième problème du projet de loi, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un objectif vertueux. Il ne s'agit pas du tout, bien sûr, il s'agit d'aller plus vite, mais il s'agit surtout d'aller plus vite pour expédier les personnes et faire en sorte que le moins possible d'entre elles accèdent véritablement au statut de réfugié. C'est-à-dire on accélère les procédures, mais surtout on fait en sorte que ces procédures ne soient plus aussi garantistes qu'elles le sont jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les personnes vont se voir traiter leur dossier dans des conditions qui ne permettront pas un véritable examen de la demande ou un examen trop superficiel ou avec des délais de recours qui ne leur permettront pas d'exercer les recours, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de refus d'asile ou de non-accès à l'asile uniquement du fait de cette accélération des procédures.
Et techniquement, ces gens qui arrivent, ils savent qu'il faut aller en préfecture. C'est-à-dire, il y a ces délais de 4 mois, mais il y a aussi peut-être un délai d'arrivée, d'émergence en France pour comprendre quel est le processus. Donc, c'est avant ces 4 mois, est-ce qu'il y a déjà des difficultés?
Alors, vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Une des grandes difficultés, c'est précisément atterrir. En tout cas, se retrouver, se reconstituer après un voyage absolument épouvantable et comprendre dans quel environnement on est, d'abord humain, social et puis administratif, et petit à petit prendre la mesure à la fois des difficultés qui restent à régler, qu'on arrive comme ça, et des moyens qu'on aura de les régler. Et il faut évidemment du temps pour tout ça. Et il faut trouver aussi le temps de trouver des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, comme le font beaucoup d'associations. Or, une des mesures phares du projet de loi, et ça ne va pas vous surprendre, c'est de dire que, alors que jusqu'à maintenant, une personne qui arrive, elle a 120 jours pour présenter sa demande d'asile. Hein, et après 120 jours, elle passe, si elle n'a pas déposé sa demande d'asile au bout de 120 jours, elle passe ce qu'on appelle en procédure accélérée, c'est-à-dire que sa demande va être traitée de manière beaucoup plus sommaire. Et bien maintenant, les procédures accélérées seront déclenchées dès le 90e jour d'arrivée sur le territoire. Donc ça veut
Qu'est-ce
dire
que
des
ça
personnes...
a comme conséquence
eh ben, que ça a comme conséquence qu'au bout de 3 mois, si la personne n'a pas trouvé à la fois les soutiens, les moyens, et puis ne serait-ce qu'un toit, pour enfin atterrir et s'organiser pour faire enregistrer sa demande d'asile, reconstituer tous les documents dont elle a besoin, qu'on va lui exiger d'elle, établir un récit de son parcours, etc. On exige d'elle qu'elle le fasse de plus en plus vite, à la hâte, et sans avoir le temps de s'organiser.
Et on sait combien de pourcentage ça représente, les personnes qui déposent entre 90 et 120 jours actuellement ?
Ah, là, vous m'en demandez beaucoup, parce que
j'imagine que
le projet de loi est sorti depuis peu de temps, on n'a pas encore eu le temps de faire
les calculs, mais
c'est clair
que
ça va avoir un effet délétère, évidemment.
Et Laurence Fabin, pardon.
Oui, et le problème de la langue, hein, parce qu'effectivement, on parle des personnes qui sont à la rue, etc. Et le problème, tout simplement, de la langue, de compréhension de ce qui se passe. Tous n'ont pas accès, j'allais dire, à une association. Donc, il y a plein de gens qui sont dans l'isolement complet et qui ne déposeront pas dans les délais des demandes d'asile. Et
donc, il faut rédiger en français.
Alors, sur ce point, le projet de loi était d'un cynisme absolu. Justement, sur cette question de la langue, vous avez parfaitement raison d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi ? Il est prévu maintenant que la langue qui sera déclarée à la préfecture au premier accueil, c'est-à-dire la personne qui arrive, qui n'a pas encore compris de quoi il s'agit, etc., mais qui arrive, on va lui faire dire quelle est sa langue, ou dans quelle langue elle peut s'exprimer. Alors on va lui dire, par exemple, est-ce que vous parlez un petit peu français, ou est-ce que vous parlez un petit peu anglais, voilà. On va lui faire choisir une langue. Mais ensuite, le projet de loi prévoit que cette langue sera définitivement opposable à la personne pendant toute la durée de la procédure. C'est-à-dire, si vous avez eu le malheur de dire, bah oui, que je pratique un petit peu le français, j'ai quelques mots de français, donc on va noter français, et ça sera opposable. C'est-à-dire qu'ensuite, toute la procédure pourra se dérouler sans interprète. Et si vous dites que c'est anglais parce que vous maniez un peu quelques rudiments d'anglais alors que vous êtes afghan ou soudanais, eh bien, on vous opposera le fait que vous avez déclaré que vous parlez anglais, donc il n'y a plus besoin d'interprète en pashtoun. Voilà. Donc, vous voyez jusqu'à quel degré de cynisme on en arrive. sur ces difficultés tout à fait particulières qu'ont les demandeurs d'asile, notamment dans le domaine de la maîtrise de la langue, eh bien, on va créer une chose trappe. Et des choses trappes comme ça, le projet de loi en crée des dizaines.
Et du coup, où intervient la rétention administrative là-dedans, dans quel cadre et quel est l'impact?
Alors, la rétention, dans le projet de loi, c'est surtout la durée de la rétention qui est étendue, hein, qui passe de 45 jours à 90, voire 135 jours, dans certains cas. Il faut peut-être juste rappeler ce que c'est qu'un centre de rétention.
Bien sûr, ouais.
Et pourquoi on y rentre?
Voilà, et pourquoi on y est? Alors, les centres de rétention, ce sont des lieux d'enfermement qui, comme leur nom l'indique, lieux de rétention administrative, ne sont pas des lieux de répression pénale, de punition, ils sont distincts des prisons, même s'ils ont de fait un effet assez punitif. Donc ce sont des lieux qui sont uniquement prévus pour l'enfermement des personnes qui sont en instance d'éloignement du territoire, c'est-à-dire des mesures d'obligation de quitter le territoire, d'expulsion administrative, etc., etc., tout ce qui est renvoi forcé. Donc le but n'est pas de punir ou de sanctionner, en tout cas officiellement, le but est simplement de retenir quelqu'un pendant la durée de la préparation de son renvoi du territoire. Donc lui trouver un titre de transport, enfin un transport, un billet d'avion, lui trouver quelque chose qui puisse remplacer un passeport quand il n'en a pas, donc un laissez-passer consulaire, etc., etc. Donc on enferme des personnes qui sont étrangères, qui sont renvoyées du territoire pour différentes raisons, notamment parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour, hein, les sans-papiers qui sont visés par une obligation de quitter le territoire, et on les enferme de façon purement administrative, sous le contrôle de la police, pendant aujourd'hui 45 jours. L'idée étant là d'augmenter donc la durée. Alors pourquoi? Parce que on va considérer, en tout cas du côté du ministère, que si on augmente la durée de rétention, on augmente les possibilités, les chances d'effectivement renvoyer un plus grand nombre de personnes. Ce qui est hautement discutable, parce que quand on regarde les chiffres même du ministère de l'Intérieur, je crois que la durée moyenne de rétention, elle est d'à peu près 10 jours, 12 jours. Donc, c'est-à-dire que la très grande majorité des personnes qui sont placées en rétention sont soit renvoyées du territoire dans les tout premiers jours de leur rétention, soit, pour plus de la moitié d'entre elles, remises en liberté sur le territoire, sans titre de séjour, c'est-à-dire sans que leur situation administrative ait été réglée, mais simplement parce que à un moment donné, il y a un responsable administratif, un policier, un responsable de préfecture qui s'est dit ça n'a plus aucun sens d'enfermer cette personne-là parce qu'on va jamais réussir à la renvoyer, on n'aura pas le laissez-passer, on n'aura pas le titre de transport, etc., etc. Donc il y a en grande partie une logique d'affichage politique, de dire on va être beaucoup plus efficace en augmentant la durée, ce qui a un effet. Par contre, ça a des effets très concrets sur les gens qui sont enfermés, hein, qui ont la perspective de rester enfermés beaucoup plus longtemps. Mais concrètement, l'effet sur les chiffres des éloignements du territoire, qui sont toujours restés assez faibles de toute façon, est quand même très très douteux.
Et Laurence Fabard, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe cette rétention?
C'est assez simple. Par exemple, quelqu'un qui est arrêté pour défaut de papier va être emmené d'abord au commissariat, où actuellement il ne peut pas rester plus de 16 heures, mais je crois que dans le projet de loi, ça va être le délai de, comme le délai de garde à vue, de 24 heures. Mais ça, c'est un déplaisir de la loi. Ensuite, donc, on va contrôler qu'il n'ait pas de papier, donc il va recevoir une obligation de quitter le territoire avec 48 heures de délai pour faire un recours, et il va être amené en centre de rétention. Et en centre de rétention, soit la police détient son passeport, et dans ce cas, ils sauront de quel pays, dans quel pays il faut le renvoyer, soit la police n'a pas son passeport, et à ce moment-là, ils vont demander au consulat du pays dont la personne dit être citoyenne, de venir le reconnaître et de délivrer un laissez-passer. Donc les gens, aujourd'hui, peuvent rester jusqu'à 45 jours. Mais effectivement, comme vous venez de le dire, la moyenne, c'est 12 jours, pas plus.
Et alors, sur les conditions vraiment de rétention,
C'est de la prison. Moi, personnellement, j'ai été en local de rétention dans des commissariats où les gens ne restent que 48 heures. Ça existe toujours aujourd'hui. Et je peux vous dire que moi, quand j'allais aider les personnes pour faire des recours, je passais derrière les grilles et la police venait m'ouvrir pour que je puisse ressortir pour pouvoir revenir dans le petit local que la CIMADE avait. Donc c'est une forme de prison, c'est de l'emprisonnement tout simplement aujourd'hui. Et on a des familles et des enfants aujourd'hui qui sont mis en rétention, ce qui est un pur scandale, puisque c'est complètement dénoncé par toutes les cours européennes et autres, mais on continue quand même à mettre les enfants en rétention. Et si je ne m'abuse, dans le projet de loi, ça n'est pas, ça n'apparaît pas comme une interdiction.
Non.
Voilà. Donc ça veut dire que ça va continuer.
Donc concrètement, on prend des gens qui sortent de conditions difficiles pour une énorme majorité, qui sont dans donc qui ont vécu des choses dures, qui ont vécu un trajet difficile, qui se retrouvent en France, et on les considère comme des criminels, des gens à mettre en prison
derrière des barreaux.
Une précision, ça ne concerne pas la mise en rétention que des personnes, des demandeurs d'asile qui arrivent, qui sont sans papier. Mmh. Ça concerne, et moi j'en vois toutes les semaines dans mes permanences, des gens qui peuvent être là depuis 10 ans, qui se retrouvent sans papier parce qu'à un moment donné, ils ont perdu leur travail, ils n'ont donc pas pu renouveler, par exemple, un titre de séjour pour salariés, qui se retrouvent avec une obligation de quitter le territoire, qu'ils ne respectent pas parce que ça fait 10 ans qu'ils ont fait leur vie ici, qu'ils ont des enfants, etc. Ils se font attraper par la police et peuvent être mis en centre de rétention. Donc on a en centre de rétention des gens qui n'ont pas à être dans des... Enfin, je veux dire, la forme d'emprisonnement de quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier, en tant que tel, c'est inadmissible.
C'est une énorme violence, en fait.
C'est très, très violent.
Il faut peut-être ajouter que ces procédures d'éloignement du territoire... Elles se font très souvent, elles se réalisent très souvent au mépris de droits fondamentaux prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque ce que vient d'expliquer à l'instant Laurence, c'est qu'une personne va être expulsée alors qu'elle a des attaches familiales en France, donc au mépris de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit à une vie privée et familiale. De même, certains éloignements vont se faire en direction de certains États dans lesquels les personnes qui vont y être renvoyées craignent à juste titre d'être soumises à des traitements inhumains et dégradants, c'est-à-dire que très souvent, ils vont être accueillis par la police de leur pays et traités d'une manière épouvantable, au mépris de l'article 3 de la même convention. Donc, il faut comprendre que non seulement on est sur une politique d'une brutalité extrême, mais on est sur une politique qui...
hors la loi.
...viole ouvertement un certain nombre de garanties posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Nicolas Fischer.
Alors effectivement, juste pour revenir sur cet aspect-là, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de personnes, de profils dans les centres de rétention. Et vous allez avoir des gens qui sont relativement intégrés socialement, qui ont un emploi, qui ont une famille, des enfants scolarisés, etc., etc. Le problème dans ces cas-là, si vous faites interpeller que vous n'avez pas de titre de séjour, que éventuellement, d'ailleurs, effectivement, vous rentrez dans les catégories qui seraient normalement protégées contre l'éloignement du territoire parce que vous avez des attaches en France, etc. Tout le problème, c'est d'arriver à le prouver, alors même que vous êtes enfermé dans un lieu qui a pour but de vous couper de vos relais, de vos liens avec le reste de la société. Et du coup, dans ces cas-là, alors, c'est pas forcément les personnes qui sont le plus facilement renvoyables parce que éventuellement elles vont réussir à faire jouer certains droits, etc. Par contre, dans leur cas, la rétention administrative, dans laquelle elles vont passer quelques dizaines de jours, va avoir pour effet de les désocialiser. C'est-à-dire que quand elles vont sortir de rétention, elles seront de nouveau sur les territoires français, mais par contre, entre-temps, elles auront perdu leur emploi, il y a des liens familiaux qui seront distendus, elles auront peut-être perdu leur logement, etc., etc. Donc vous avez ces catégories-là, et puis après, vous avez aussi tout un ensemble de gens qui sont beaucoup plus précaires socialement, qui du coup se font beaucoup plus facilement arrêter, notamment les gens qui sont SDF, qui vivent dans la rue, qui se font contrôler sans arrêt. Donc eux, ils reviennent sans arrêt en centre de rétention. Ils sont en général très rarement renvoyés du territoire parce qu'ils n'ont pas de passeport, pas de papier, etc., etc. Mais par contre, ils tournent, c'est-à-dire qu'ils vont de rétention en hôpital, en asile de nuit, puis ils vont revenir en rétention parce qu'ils se sont fait arrêter, puis à un moment donné, ils vont faire une bêtise, ils vont se retrouver en prison, ou pas, ou à un moment donné, ils vont craquer, ils vont se retrouver en hôpital psychiatrique. Et on voit comme ça des gens qui tournent d'institution en institution, qui ne sont jamais renvoyés, qui ne sont jamais régularisés non plus, mais qui se retrouvent dans une espèce de cercle vicieux, de limbe comme ça, administrative, dans laquelle ils flottent.
Et qui vivent dans des conditions, j'imagine, sanitaires, enfin de santé assez terribles.
Très précaires. Ouais.
On va faire une pause musicale et puis on va reprendre sur la fin de l'émission, sur le projet de loi et puis aussi sur les actions des différentes associations.
Ready or not, here I come, you can't hide.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission Mode d'emploi, consacrée ce soir au phénomène migratoire et au projet de loi Asile et Immigration. On vient d'écouter The Fugees, Ready or Not, et on va passer la parole à Patrick Henriot, qui va nous détailler un point du projet de loi Asile et Immigration, et ensuite on parlera des initiatives de solidarité très nombreuses aujourd'hui en France.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment sur le projet de loi. On a parlé tout à l'heure de la procédure d'asile. Peut-être il faut dire deux mots de l'autre volet du projet de loi, qui est le volet consacré au renforcement de l'efficacité des mesures d'éloignement du territoire et notamment au renforcement des mesures de contrainte que le gouvernement, que l'administration va pouvoir utiliser pour mener à bien ces procédures de renvoi. Il y a d'abord une multiplication très très inquiétante du nombre de situations ou d'hypothèses dans lesquelles l'administration pourra recourir à des mesures de contrainte qui pour le moment n'étaient pas encore prévues. Je pense que quand je dis mesures de contrainte, ça peut être aussi bien de la rétention que de l'assignation à résidence. L'assignation à résidence aussi connaît un développement très important comme mesure de contrainte. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément mieux que la rétention. Parce que quand on est assigné à résidence, on est totalement isolé. En rétention, il y a encore quelques associations qui travaillent en rétention et qui peuvent apporter un soutien et une aide aux personnes. Quand vous êtes assigné à résidence au fin fond d'un département français, vous êtes totalement isolé. Vous êtes alors là, pour le coup, vraiment à la merci de l'administration et des services de police. Et puis, je voudrais quand même insister sur la proposition de loi qui vient d'être adoptée, qui est en fait un précurseur du projet de loi, qui permet maintenant de placer en rétention les personnes qu'on dit sous procédure Dublin. Les personnes sous procédure Dublin, c'est des personnes dont le seul tort est d'avoir laissé leurs empreintes dans un autre État membre de l'Union européenne en entrant sur le territoire de l'Union européenne et qui font une demande d'asile en France après être passées dans cet État. Eh bien, elles ne peuvent pas faire instruire leur demande d'asile en France. Elles doivent retourner dans l'État où elles ont laissé leur empreinte. Eh bien, pour les contraindre à y retourner, avant même qu'on sache si véritablement la procédure Dublin a vocation à s'appliquer, on va les placer en rétention. Et ça, c'est une loi qui vient d'être votée depuis quelques jours. Donc, cette aggravation constante et ce recours de plus en plus important à l'enfermement, il faut vraiment le souligner, c'est une constante de ces différents projets de loi et celui-là n'échappe pas à la règle.
Donc, on a vu que il y avait une absence de crise migratoire et de problème, que derrière, on en créait des vrais, un avilissement, un processus dégradant pour ces personnes-là. Quelles sont les initiatives derrière pour les associations, par les associations, pour essayer d'avancer dans la bonne direction ?
Laurent. Alors là, en ce moment, depuis plusieurs mois, enfin même je dirais même plusieurs années maintenant, il y a de plus en plus de collectifs qui se montent un peu partout en France, notamment depuis 2015. Hein, mais bon, à côté des grandes associations qui existent depuis longtemps, donc ces collectifs se sont montés pour essentiellement sur des questions d'hébergement, d'aide à l'accès aux droits, sur la question des mineurs isolés qui dorment dans la rue alors que normalement un mineur, l'État lui doit protection. Donc voilà, c'est ces collectifs qui font un travail de solidarité formidable. Alors, on a beaucoup parlé Cédric Héroux dans le Sud, c'est vrai, qui est passé je ne sais combien de fois en garde à vue, qui a eu plusieurs procès. Il se passe plein de choses aujourd'hui à Briançon, dans le massif alpin, avec des collectifs qui soutiennent les personnes, qui accueillent ces personnes qui sont en pleine nuit dans la neige à traverser l'école. Enfin, on assiste à des choses assez d'ailleurs incroyables en France. On ne pensait pas qu'on pourrait assister à ça. Et ça émeut énormément de gens. Il y a un site sur Internet qui est très intéressant, qui relate un peu tout ce qui se passe, qui s'appelle Sursaut. Sursaut citoyen, Sursaut ça s'appelle. Et vous avez la carte de France avec toutes les initiatives qui existent en matière de solidarité avec les migrants. Et c'est là qu'on voit, il y a aujourd'hui plus de 1000 initiatives qui sont répertoriées. Donc ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. Et c'est aussi un visage de la France qu'on n'entend pas trop dans les médias, malheureusement.
Oui, on peut peut-être parler aussi alors de la façon dont toutes les associations et organisations, aussi bien très très traditionnelles, classiques, que ces fameux collectifs dont tu parles, la façon dont elles se sont regroupées. Parce qu'il faut se souvenir qu'au mois d'août de l'année dernière, Gérard Collomb a annoncé un plan migrant qui préfigurait entre autres le projet de loi, mais pas seulement le projet de loi, toute une série de mesures, ces fameuses circulaires, etc. Et à l'époque, il y a plusieurs centaines d'associations, grandes et petites, qui se sont mises ensemble en disant, en s'adressant au gouvernement et en écrivant au Premier ministre pour lui dire, écoutez, vous pouvez pas continuer comme ça, vous allez dans le mur avec vos politiques migratoires, on voit ce que c'est, on voit l'échec, il faut changer de politique migratoire, il faut imaginer de nouvelles politiques. Et on vous propose de vous engager dans ce processus. Évidemment, le gouvernement n'a rien voulu savoir, il a continué sur sa lancée, et ces plusieurs centaines d'associations se sont regroupées maintenant dans les états généraux des migrations, et sont en train de faire tout un travail de terrain avec beaucoup d'associations et de collectifs locaux, pour faire remonter justement des propositions pour imaginer de nouvelles politiques migratoires.
Alors par exemple, quelle proposition ?
Alors c'est trop tôt puisque pour le moment le travail se fait. Le travail se fait sur le terrain dans toutes les régions de France. Des initiatives sont prises et tout ça est coordonné au niveau national par les états généraux des migrations. Qui ont vraiment, je trouve, cette particularité de parler d'une seule voix sur le principe de vraiment changer radicalement de politique, c'est-à-dire changer de regard, changer de politique et prendre les choses complètement différemment.
C'est Einstein qui disait « Seuls les fous essayent encore et encore la même chose en espérant un résultat différent ». Et c'est bien de ça dont il s'agit, où il faut essayer de changer le paradigme.
Et ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a au moins 470 associations.
Oui,
c'est quand même un nombre extrêmement important. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas un tel consensus par rapport à une situation et par rapport à une loi.
C'est le bon.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde associatif aujourd'hui qui est vraiment celui qui est en pointe sur la lutte sur les questions des migrations. Les partis sont assez peu présents, on va dire. On va le dire gentiment.
Donc effectivement, c'est peut-être le point positif de la loi. Elle a su rassembler autour d'elle par son caractère choquant.
Et du coup, quelles sont par exemple les initiatives des associations ? Comment elles viennent aider concrètement les migrants ? Allez-y.
Peut-être. Oui, moi je crois que ce qui est intéressant justement, c'est qu'on assiste à une très grande diversité d'actions. De choix d'action. C'est-à-dire, il y a les petits déjeuners de Flandre, c'est des personnes qui ont vu sous leur fenêtre un matin des migrants, les tentes de migrants sur l'avenue de Flandre. Et maintenant, il y a une association qui s'appelle
les petits
déjeuners de Flandre, voilà, dans le 19e arrondissement. Donc certains apportent des petits déjeuners, d'autres font du soutien juridique, d'autres font de l'aide à l'apprentissage de la langue, d'autres font de l'hébergement, d'autres ont une action plus militante, plus radicale, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même, à travers toute cette diversité, maintenant, je crois qu'il y a une idée commune qui émerge, c'est que, véritablement, cette fameuse humanité dont le gouvernement prétend se parer, l'humanité, elle est actuellement du côté des associations, du côté du terrain, du côté de tous ceux qui aident les migrants.
Parce qu'effectivement, enfin, vous le soulignez, on assiste à des déclarations, notamment de M. Macron, qui souhaite garantir, je le cite, garantir un accueil digne et humain. Et de l'autre côté, on a cette loi. Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter d'un point de vue, c'est purement un positionnement politique,
Ça fait 20 ans que les gouvernements, chaque fois qu'ils sortent une loi sur l'immigration, disent c'est une loi équilibrée entre humanité et fermeté. On l'a entendu chaque fois, à chaque loi, on entend la même chose, humanité et fermeté. À supposer même que cette rhétorique traduise la réalité des objectifs, en réalité on sait bien que tel n'est pas l'objectif, mais à supposer même que ça soit l'objectif réel, si on regarde le projet de loi actuel, vraiment il y a 30 articles dans ce projet de loi. Je mets au défi quiconque de trouver plus de, allez, on va dire 4-5 articles dont on peut considérer que c'est des mesures à but humanitaire. Tout le reste, c'est du répressif, très clairement.
Nicolas.
Oui, effectivement, c'est depuis, comme vous le disiez, depuis les années 70-80, on a toujours un peu la même logique qui consiste à dire on va être humain et on va faire le maximum pour intégrer, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme, les réguliers, mais par contre on renvoie les irréguliers. Ce qui là encore repose sur il y a un vrai problème de termes et puis de les représentations qui y a derrière le terme, c'est-à-dire qu'on fait comme s'il y avait une sorte de barrière hermétique entre les réguliers et les irréguliers, en oubliant que les administrations fabriquent des irréguliers, c'est-à-dire des sans-papiers à tour de bras, en n'accordant pas des titres de séjour, en ne renouvelant pas des titres de séjour de gens qui avaient des papiers auparavant. Donc voilà, il y a cette idée que le statut administratif définit vraiment des personnalités, des profils. Il y a les bons qui sont ceux qui sont intégrables et qu'on va chercher à intégrer. Et puis il y a les mauvais qu'on va criminaliser, qu'on considère d'emblée comme des criminels. Et derrière cette obsession à ne pas abandonner et même au contraire à accentuer la dimension sécuritaire et répressive, il y a sans doute aussi le fait qu'il n'y a finalement pas beaucoup de leviers aujourd'hui politiques sur lesquels les États peuvent vraiment faire la démonstration de leur force, ou en tout cas essayer de montrer qu'ils ont encore la main et qu'ils sont encore efficaces. Et la répression de l'immigration est un de ces leviers, alors même que sur le plan économique, par exemple, il n'y a plus beaucoup de contrôle étatique sur l'évolution des choses. Donc il y a vraiment une logique d'affichage de la capacité, en tout cas, à déployer des instruments répressifs, alors même que très souvent, cette répression est assez inefficace. Sur la rétention administrative, on enferme peu de gens par rapport au nombre de gens qui seraient en situation irrégulière estimée en France, et on en expulse encore moins parmi ceux qu'on enferme. Donc c'est de toute façon très peu efficace, en tout cas si on prend les critères du gouvernement, mais par contre, ça a un effet d'affichage, de communication qui est très très fortement recherché.
Et alors, peut-être qu'on va conclure bientôt l'émission. Enfin, on va conclure bientôt l'émission, c'est certain. Et peut-être qu'on peut conclure sur, je ne sais pas, vous, chacun, d'après votre expérience, quelle serait une mesure qui pourrait rendre justement un caractère plus digne et humain à l'accueil aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez une proposition, mais voilà, qu'on finisse sur des choses un peu positives.
Oui, moi je vais proposer deux mesures, une qui sera peut-être considérée comme maximale et l'autre qui sera considérée, que je considérerai en tout cas comme minimale. Je pense qu'en réalité, il faut raisonner en termes de liberté de circulation à partir d'aujourd'hui. Si il y a des milliers de morts en Méditerranée, si on connaît ces parcours migratoires épouvantables maintenant qui sont bien documentés, c'est quand même, il faut le dire, le répéter sans arrêt, c'est parce que ces personnes n'ont pas de voie légale d'accès sur le territoire. S'il y a des passeurs, c'est parce qu'il n'y a pas de visa. Quand les gouvernements successifs affirment lutter contre les passeurs et quand l'Union européenne fait comme point focal de sa politique la lutte contre les passeurs, c'est en fait l'aveu, la reconnaissance très directe, et en fait on ne veut pas recevoir ces gens-là, donc on ne délivre pas de visa, donc on n'ouvre pas des voies légales d'accès. Donc je crois qu'il faut raisonner en termes de liberté de circulation. Donc moi, la mesure que je préconiserais, c'est l'instauration de la liberté de circulation, mais si ça fait encore peur à quelques-uns, je proposerais une mesure peut-être plus minimaliste, mais qui serait en tout cas de cesser absolument de recourir à l'enfermement pour le traitement administratif des étrangers. Cessons d'enfermer des personnes sous prétexte qu'elles n'ont pas le bon papier.
Laurence Favard.
Voilà, tu m'as enlevé ce que. Effectivement, ça, c'est une mesure. Supprimons tous les lieux d'enfermement, ça, c'est évident. Mais juste sur la liberté de circulation, parce que je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, il faut quand même voir que nous qui sommes dans des pays dits riches, nous circulons librement. Nous circulons librement. Un tiers de l'humanité peut circuler librement. Je dis à peu près un tiers. Ça quand même, ça pose question de l'inégalité entre les pays, entre les peuples, qui est quelque chose, qui est vraiment une atteinte à un droit fondamental, parce que la liberté de circulation, c'est quand même dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté de circuler.
Et pour conclure,
Nicolas Fischer, c'est pas évident en tant que chercheur, peut-être c'est moins évident de se positionner, mais
sur la rétention administrative, sur l'enfermement administratif, qui est l'héritage d'une mesure. Autrefois, la rétention, on appelait ça internement administratif. Ça se traduisait par des camps d'internement. Et quand on y pense dans ces termes-là, on se dit c'est aberrant que ça ait été restauré à la fin des années 70 et que ça soit devenu quelque chose de parfaitement ordinaire pour des gens qui n'ont absolument rien à voir avec une répression pénale, qui n'ont pas enfreint la loi, etc., etc. Donc effectivement, la suppression de ce type d'enfermement, c'est clairement quelque chose qui me paraît très nécessaire. Et puis au-delà, alors c'est un énorme travail qui serait à faire, mais justement de changer de regard sur cette migration qu'on considère comme un problème et qui n'en est pas un.
Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Vous pourrez cependant bientôt la réécouter en podcast sur le site www.fondation-copernic.org ou sur le site Mode d'emploi. Le prochain thème de notre émission, donc la prochaine émission hein, de la Fondation Copernic, ça se déroulera le quatrième vendredi du mois de mars et ce sera sur le Do It Yourself, donc rien à voir. En tout cas, remerciements à nos invités. Merci beaucoup Nicolas Fischer, Laurence Fabard, Patrick Henriot, Jean-Max pour la musique et Claude pour la technique. Bonne soirée, bon week-end à tous et on se quitte avec Mia Borders.
Bonne soirée à tous.
Freedom, item, meet him, where'd you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them.